Hussein, parce que la VOA est également malheureusement endeuillée par ce drame. Deux Somaliens qui avaient des liens avec la VOA ont été tués dans l'attaque de samedi. Il s'agit de Ahmed Abdikarim Eyo et Ali Nour Siad. Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles et proches. Alors quant à Abdul Kadir Mohamed Abdul, l'un des correspondants du service somalien à Mogadiscio, il a lui été blessé. Que pouvez-vous nous dire sur eux?
Oui, Abdul Qadir Abdullah a été blessé lors de l'explosion du week-end. Monsieur Abdullah a eu une main qui était des brûlures sur son corps, des éclats d'obus à la tête et au cou. Il a été évacué en Turquie pour traitement médical. Sa situation est très bonne maintenant. Malheureusement, le caméraman somalien indépendant Ali Nour Siad a été tué dans l'explosion de Mogadiscio alors qu'il était en mission pour la VOA. Monsieur Ahmed Abdikarim Iyo a péri lui aussi dans cet attentat. Il était un ami de la Voix de l'Amérique et il avait notamment participé à l'organisation d'une table ronde de la VOA sur la Somalie.
Au niveau de l'enquête, quels sont les derniers éléments dont vous disposez, Hussein? Les autorités ont-elles identifié les auteurs de l'attentat?
Le gouvernement somalien n'a pas donné officiellement la dernière information sur l'enquête en cours, mais cette explosion est arrivée en moment critique. Elle s'est produite alors qu'il y a des crises qui sévissent dans la région du Golfe. Il y a des informations disant que la cible était la base militaire turque à Mogadiscio. Nous savons que la Turquie et le Qatar sont des alliés contre les Émirats et les Saoudiens. Et selon certains analystes, la crise du Golfe pourra avoir un impact à l'intérieur de la Somalie. Localement, cette explosion s'est produite alors qu'il y a des crises politiques entre le gouvernement central de la Somalie et les cinq États régionaux qui forment l'État fédéral. Bien que cette explosion ait tous les imprimants de l'Al-Shabaab, mais Al-Shabaab n'a pas revendiqué la responsabilité immédiatement pour plusieurs raisons, peut-être à cause de l'ampleur des gars ou peut-être on a manqué la cible pour ne pas l'admettre.
Voilà, Roland Marshall, Hussein vient de nous le dire, toujours pas de revendication ce jeudi, mais le gouvernement somalien n'a aucun doute sur la responsabilité des islamistes d'Al-Shabaab, ce groupe lié à Al-Qaïda. Qu'en pensez-vous, l'attentat de samedi porte-t-il la marque des Shabaab?
Écoutez, disposer de 500 kilos d'explosifs n'est pas à la portée de tout le monde. Shabaab, dans les derniers mois, depuis le début de l'année, a été capable de prendre le contrôle de camps de la MISOM, Kulbio, de camps de l'armée nationale somalienne à Lantabour et également dans la proximité de Kismayo, d'un camp militaire de l'organisation Maskamboni. Donc, sans parler de ce qui s'est passé avant, en 2016, c'est sans doute la seule organisation, hormis le gouvernement ou des puissances étrangères, qui est capable aujourd'hui d'avoir cette quantité d'explosifs. Après, et tout à fait dans le sens de votre collègue somalien, la zone où l'explosion a eu lieu n'a pas de valeur politique pour Shabaab, parce que même si on veut toujours décrire cette organisation comme une organisation de tueurs, bon, il cherche quand même, il y a quand même une visée politique. En général, ce sont des ministres, des parlementaires, des officiers supérieurs, des gens des services de renseignement ou des étrangers. Bon, là où ça s'est passé, il n'y avait personne de cet acabit-là. Donc la possibilité, le scénario le plus crédible à l'heure actuelle, c'est effectivement que soit ce chargement devait être éventuellement décomposé en plusieurs lots qui auraient servi à des attaques dans Mogadiscio de moindre ampleur, mais qui auraient souligné l'incapacité du gouvernement somalien à sécuriser la capitale, puisqu'il en avait fait la promesse, et que on a eu pendant l'été plusieurs attaques de ce type, ça c'est une option, ou l'autre option c'est effectivement que y avait une autre cible. Alors effectivement, le nouveau camp d'entraînement dirigé par la Turquie. On peut penser aussi à des grands hôtels de Mogadiscio qui sont tout près, juste après le kilomètre 4, comme Nassa Ablot, l'hôtel Mukamukama qui a été un peu reconstruit, voire le Somali Youth League Hotel qui est plus proche du compound présidentiel. Mais enfin là, on est vraiment dans des spéculations, puisqu'on ne saura a priori jamais quelle était la véritable cible et s'il y en avait une ce soir-là.
D'accord. Alors, une attaque monstrueuse, certes, Souleymane Baldeux. Pensez-vous que les réactions qui ont suivi dans le monde ont été proportionnelles à l'ampleur de la tragédie? Par exemple, ici aux États-Unis, nous l'avons à peine vu mentionné dans les journaux télévisés.
Je suis tout à fait choqué du manque de réaction aux États-Unis. Disons, les chaînes de nouvelles nationales sont consumées par les toutes dernières nouvelles de crise provoquées par l'exécutif, le président Trump et ce qui se passe autour de l'enquête et tout cela. Il n'y a pas eu guère de mention de l'attentat de Mogadiscio. Je note qu'à Paris, on a éteint l'éclairage de la tour Eiffel, qui était un geste de solidarité. Et si le manque de réaction du gouvernement américain a fait dire aux journalistes locaux qu'il y a deux poids, deux mesures de la façon que les États-Unis réagissent aux attentats terroristes de par le monde. Et donc, un peu plus d'attention à ce qui se passe à Londres ou à Paris, par exemple, pas de tristes attentats qui ont eu lieu là-bas, mais peu de mentions et, peu de et pas du tout de réaction au fait à cet attentat à Mogadiscio.
C'est un peu du côté des médias, certainement, mais en tout cas, le gouvernement a déclaré qu'il apporterait plus de soutien. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais dites-moi, l'attentat est-il également synonyme de l'échec des forces de sécurité qui, encore une fois, n'ont pas pu identifier et déjouer une telle attaque dans une capitale qu'on croyait quadrillée par de nombreux checkpoints?
Certainement, il y a eu plusieurs programmes pour la formation des soldats pour l'armée somalienne et on se demande où se trouvent ces forces de sécurité. Ouais. Et il est apparu un article que j'ai vu dans Le Guardian qui a mentionné que le camion a été arrêté lors d'un premier contrôle routier, mais on l'a laissé passer parce que quelqu'un a téléphoné pour dire tout est ok, n'est-ce pas? Et donc c'est sur le kilo 5 où disons, ceux qui sont en train de manier le checkpoint ont insisté à inspecter le camion et c'est à ce moment-là qu'il a sauté d'après cet article. Et donc, ça montre que les djihadistes du Shabab peut-être ont de l'influence dans des hauts niveaux, dans les organes de sécurité. C'est encore une spéculation.
Oui, en fait, j'en parlais tout à l'heure à Roland Marshall, justement parce qu'il y a eu autant de civils qui ont été tués, et peut-être comme le suggérait Hussein, peut-être que la cible prévue n'était pas celle finalement où il y a eu cette explosion. Donc vous pensez que peut-être il y a surtout cette raison qui explique le fait que les Chebabs ne veulent pas revendiquer cette attaque maintenant, après autant de civils tués?
Bien sûr, il y a eu un retombé très négatif dans la population, et on a vu la population manifester sa colère. Et donc les Chebabs, de point de vue calcul politique, n'a pas revendiqué l'attentat pour ne pas avoir de retombées négatives sur sa réputation politique et tout cela. Mais du point de vue pratique, disons, aucune force d'ailleurs n'a pas cette capacité de monter une telle opération.
Voilà. Donc, je vous propose maintenant deux des nombreux commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Brahima Doumbia, Bamako, Mali. La Somalie est un état fragile avec une armée incapable de contrôler tout le pays et malgré la présence de la MISOM, les attaques y sont fréquentes. Il faut avoir la volonté, les moyens logistiques nécessaires et les renseignements pour y faire face. Bertin Tomnabel Mogadiscio, merci pour l'aide américaine à la Somalie. Et voilà la deuxième partie de Washington Forum dans quelques petits instants, le temps d'une courte pause.
En plus de nos programmes sur FM 11 jours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Washington Forum, nous braquons les projecteurs sur la Somalie après l'horrible attentat de Mogadiscio samedi, un attentat qui a provoqué une onde de choc dans le pays, mais aussi au sein de sa diaspora, comme celle aux États-Unis. Nos collègues du service somalien ont tendu leur micro à quelques membres de la communauté somalienne de Minneapolis dans l'état du Minnesota.
Il nous reste encore tellement de choses à faire. Des corps qui doivent être enterrés, des enfants qui n'ont plus de parents. Et malheureusement, notre gouvernement n'a pas les fonds pour s'en occuper. Nous devons compter sur nous-mêmes. Alors j'implore tous ceux qui nous écoutent d'avoir pitié de ces victimes. Ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants ont besoin de notre aide.
Nous devons nous unir pour aider ceux qui en ont besoin, ceux qui sont toujours sous les décombres et ceux qui ont perdu leur maison. Il faut sauver les survivants. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors je vous demande de faire les dons sur notre page pour GoFundMe, $50, $100. Faites un don selon vos capacités.
Terror is interested in causing destruction.
Le terrorisme veut causer de la destruction et semer la peur dans nos cœurs. Nous sommes avec vous et nous devons continuer à nous battre pour un monde de paix.
For a world of peace.
Et sachez que le progrès que vous avez réalisé et ce que vous entreprenez n'est pas passé inaperçu.
And what you've been working towards.
Alors nous nous tenons debout avec vous pour nous assurer que ces efforts pour le progrès ne soient pas amoindris.
La communauté, des membres de la communauté somalienne de Minneapolis, où il y a une forte communauté somalienne évidemment. Et nous retrouvons nos invités, Souleymane Baldo, expert indépendant des Nations Unies. Il s'intéresse notamment aux questions sécuritaires en Afrique. Du studio de la VOA dans la capitale américaine, Hussein Aden, notre collègue du service somalien de la Voix de l'Amérique. Et de Paris, Roland Marchal, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po Paris. Roland Marchal, Al-Shabaab a juré la perte du gouvernement somalien, un gouvernement soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de l'AMISOM, cette force de l'Union africaine. Que veulent les Shabaab exactement? Les a-t-on sous-estimés ces derniers temps, d'après vous?
Écoutez, je crois que d'abord, évidemment, on a toujours trop tendance à sous-estimer ses ennemis, et peut-être on a aussi trop tendance d'abord à croire que on est d'emblée, par définition, le côté du bien et la seule solution pour ce pays. Ce qui fait que finalement, on ne fait pas ce qu'il faudrait être fait, et on s'inscrit dans un cercle vicieux qui dure depuis des années. La communauté internationale a voulu soutenir ce gouvernement et en faire un instrument de réconciliation nationale. Si vous voulez, on peut aujourd'hui douter que ce gouvernement gouverne, et ça concerne non seulement l'échelon national à Mogadiscio, mais également les États fédérés. Et puis, il n'y a pas eu de réconciliation sociale, c'est-à-dire que les conflits restent extrêmement nombreux à l'intérieur de la Somalie, même si les médias internationaux, dont vous, parlaient essentiellement de Shabaab. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui divisent la population, et d'une certaine façon, Shabaab s'inscrit dans cette configuration et devient un peu l'ennemi secondaire pour les Somaliens, c'est-à-dire que Shabaab n'a plus la popularité que cette organisation avait contre l'Éthiopie il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais par contre, c'est un allié utile pour battre les autres, hein, qui sont soit un clan voisin, soit une administration fédérale, soit la dite administration nationale. Et donc, d'une certaine façon, les Somaliens qui aujourd'hui pleurent leurs victimes sont aussi très fondamentalement les complices de, et permettre la survie de cette organisation. Et donc, il faut réfléchir à ça. Il faut arriver à comprendre pourquoi au Somaliland, qui est en paix depuis quand même le début des années 90, on a des milieux d'affaires qui continuent à cotiser pour financer les actions de Shabab. Pourquoi au Puntland, qui malgré une situation difficile à Bosaso est relativement en paix, on fait de même. Et pourquoi d'une certaine façon, dans les campagnes somaliennes, contrairement à ce que peut-être on voudrait, nous occidentaux, une partie de la population se retrouve derrière Shabab parce que finalement de l'autre côté, il y a un pouvoir et des clans qui, durant les plus de 25 ans de guerre civile, les ont maltraités.
Suleiman Baldeu, le carnage de samedi aura-t-il un impact sur la guerre contre les Shabab? Question peut-être un peu évidente, mais il faut la poser quand même.
La réponse des États-Unis en disant qu'il soutiendra l'armée somalienne et appuiera ses efforts militaires dans le pays montre le type d'appui qui est venu en réponse à cet attentat, c'est-à-dire un appui au niveau sécuritaire. Or, le problème, bien sûr, va aussi au-delà du sécuritaire. Il est complexe, il est social et ça concerne aussi le développement, le problème de malgouvernance, de corruption rampante dans le pays. Et ce qui fait que, en fin de compte, oui, il faut vraiment des solutions compréhensibles. Et on ne peut pas seulement continuer à pomper des zones de l'appui militaire alors que les problèmes de développement économique et de mal gouvernance ne sont pas adressés pour stabiliser la Somalie et les faire sortir de cet état de crise perpétuelle.
Oui, parce qu'il y a cette anarchie qui se poursuit depuis des années, n'est-ce pas? Alors, en fait, vous l'avez mentionné, il y a l'armée américaine qui a déjà une force de 400 personnes sur le terrain. Bon, c'est pas beaucoup, évidemment, mais Washington se dit désormais prêt à renforcer son appui au gouvernement somalien. Qu'en pensez-vous?
Disons, les États-Unis est déjà engagé sur le plan militaire et il a une force sur place, des forces spéciales, et là aussi, disons, des avions sans pilote et d'appui aérien ponctuel pour faire des bombardements sur des cibles identifiées en tant que Shabab. Et donc, augmenter cette capacité, ça veut dire on va augmenter la capacité sécuritaire, mais sans s'adresser aux racines des problèmes qui font que la Somalie continue encore à être un pays faible et fragile.
Hussein Aden, nous l'avons vu, de nombreux habitants de Mogadiscio sont descendus dans la rue pour crier leur colère contre les auteurs de cette attaque, mais sont-ils également furieux contre le gouvernement pour n'avoir pas pu prévenir le drame?
Le peuple somalien est toujours sous le choc, car il s'agit de la plus grande expulsion de l'histoire somalienne. Les gens sont toujours confrontés aux dégâts causés par l'expulsion. Mais cette attaque a aussi pointé quelques problèmes qui ont besoin d'être attention. Elle a montré à quel point l'armée et la police somalienne sont faibles et ont besoin de plus d'informations et de soutien. Elle a également montré l'échec et l'inefficacité de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, car après 10 ans de présence, les Shabab sont toujours là. Il est difficile pour le moment de voir une solution politique en vue de voir aussi à cette situation en Somalie, car aucun groupe ne veut gagner sans le soutien d'autres parties prenantes, notamment de ces États régionaux.
Oui. Et au cours d'un rassemblement mercredi à Mogadiscio, à la mémoire des victimes, le président somalien Abdullahi Mohamed a promis d'intensifier la guerre contre les Shabab. Nous l'écoutons.
Al-Shabaab a commencé par tuer 10 personnes. Nous avons gardé le silence. Puis ils ont tué 20 personnes. Puis ils ont tué 100 personnes. Ils ont tué 300 innocents civils somaliens. Ils ont commencé à attaquer les hôtels. Nous avons alloué 14 millions de dollars américains d'une part à la lutte contre Al-Shabaab et d'autre part à la création des centres pour les orphelins. Nous commencerons par les orphelins, laissés par les personnes qui ont été massacrées récemment par Al-Shabaab dans cet attentat à la bombe.
le président somalien. Roland Marshall a déjà son investiture en février dernier. Le président Abdullahi Mohamed avait ceci à dire: ceux qui travaillent avec Al-Qaïda, Al-Shabaab et le groupe État islamique, nous vous disons que votre temps est terminé. Mais voilà, 9 mois après, pourquoi lui et son gouvernement ne parviennent-ils toujours pas à chasser, pour ne pas dire éliminer, tous ces terroristes qui sèment le chaos dans le pays?
Écoutez, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter d'utiliser un vocabulaire qui ne correspond pas à la menace. Shabaab, c'est sans doute des tueurs, mais ce n'est pas les seuls tueurs que vous avez en Somalie. L'armée somalienne a tué récemment 10 civils, dont 3 enfants. Les médias internationaux s'en sont pas saisis. Donc, il faut bien comprendre que c'est ce climat de violence générale qui fait que ce que fait Shabaab n'a rien d'extraordinaire pour beaucoup de Somaliens. Alors évidemment, il y a cet attentat, enfin cette explosion de samedi soir.
Après avoir commis un carnage de 300 personnes, Roland Marshall,
les gens évidemment sont choqués, comme nous nous le sommes, de cette boucherie. Mais hormis ça, la guerre au quotidien, les gens la vivent depuis 1991. Donc il faut comprendre que oui, les gens n'aiment pas Shabaab, mais quand il faut régler des problèmes d'héritage, des problèmes de dette, des problèmes de propriété foncière, les gens préfèrent aller dans des tribunaux qui sont gérés par Shabaab plutôt que d'aller dans les tribunaux gouvernementaux. Parce que les juges ne sont pas corrompus, parce qu'il y a effectivement une enquête qui est menée, parce que enfin, Shabaab se préoccupe non seulement de donner un verdict, mais veille à ce que ce verdict soit mis en œuvre. Le gouvernement ne fait pas ça. Pourquoi ne le fait-il pas? C'est une question à laquelle ce président, comme ses prédécesseurs, devrait répondre avant de demander une aide militaire internationale. Ensuite, si on regarde l'aspect sécuritaire proprement dit, écoutez, là, ce qu'on appelle l'armée nationale somalienne est, à la fois une constellation de groupes au niveau national, puisque chaque État fédéré pratiquement est une force armée, et qui s'est construit sur des milices claniques, donc ça veut dire où un clan domine et où d'autres clans sont exclus, et d'où des mécontentements, d'où ce que j'expliquais avant, le fait que bon, finalement, à certains moments, on peut travailler avec Shabaab parce que c'est une façon d'affaiblir un groupe qui vous domine. Et puis de l'autre côté, quand vous regardez la communauté internationale, on est dans l'irresponsabilité totale, à commencer par les États-Unis. C'est-à-dire que si vous regardez les acteurs internationaux dans le développement, dans la construction d'une armée somalienne, bon, vous avez les États-Unis qui créent leur propre milice indépendamment de l'armée nationale.
Malheureusement, le temps passe trop vite, mais je vais vous demander, il y a cette question, Roland Marchand, je m'excuse, Souleymane Baldour, en 2 mots, il y a beaucoup qui se posent cette question, évidemment, avec tout ce qui se passe dans ce pays. Alors, la Somalie est-elle un cas désespéré ou il y a de l'espoir pour ce pays?
On ne peut pas désespérer de n'importe quel pays qui, contre ces conditions difficiles, avec Boko Haram qui est devenu une force régionale affectant plusieurs pays, avec les tranches de Al-Qaïda et de l'État islamique en Afrique sahélienne, tous les pays fragiles dans ces zones affectées par le terrorisme sont vraiment ont besoin, au contraire, d'un soutien pour essayer de s'y adresser.
On va donner le dernier mot à notre ami somalien. Hussein Aden, les Somaliens ont-ils l'espoir de pouvoir un jour mener une existence pacifique dans leur pays?
C'est le côté positif de ce drame à raviver le sentiment de fraternité et l'appartenance entre la population somalienne, en particulier après 27 ans de guerre civile et de terrorisme. Donc on a encore de l'espoir.
Voilà, on a de l'espoir. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci à nos collègues de Washington et New York. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide. Je vous dis à très bientôt. Take care.